VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 25 juillet 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sédoudia. Pour commencer, les titres. Au Burkina Faso, visite d'Oumaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO. En Tunisie, référendum aujourd'hui sur la nouvelle constitution controversée du président Kais Saied. Le président français Emmanuel Macron aujourd'hui au Cameroun, première étape d'une tournée incluant le Bénin et la Guinée-Bissau. Poursuite au Congo-Brazzaville de la tournée africaine de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. En Ukraine pendant ce temps, l'invasion russe entre dans son sixième mois. Un violent incendie continue de s'étendre en Californie, des milliers de personnes évacuées. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le président de la Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, est à Ouagadougou depuis dimanche pour évaluer la situation sociopolitique au Burkina Faso. Notre correspondant sur place, Lamine Traoré.
Le président bissau-guinéen, président en exercice de la CEDEAO, Oumaro Sissoko Embalo, accompagné du président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, et du médiateur pour le Burkina, Mahamadou Issoufou, l'ancien chef d'État nigérien, sont à Ouagadougou depuis hier. Oumaro Sissoko Embalo a eu un tête-à-tête avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba sur la conduite de la transition, dont le délai reste fixe et inchangé.
On a eu de très bonnes discussions avec les autorités burkinabées, avec le président. C'est très important, les délais. Et là, on a le consensus sur ces délais de 24 mois. À partir du 1er juillet 2022 jusqu'à 1er juillet 2024.
Sur la situation sécuritaire, le président Embalo a reconnu qu'elle ne concerne pas seulement que le Burkina, mais toute la sous-région. Les grands axes de la transition restent principalement le défi sécuritaire et humanitaire et le retour à l'ordre constitutionnel, a-t-il dit avant de demander une mobilisation des partenaires pour soutenir le Burkina Faso. Oumaro Sissoko Embalo, qui termine sa visite ce lundi, devrait rencontrer le Premier ministre, le président de l'Assemblée législative de la transition, les partis politiques et certaines associations de la société civile. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
L'armée malienne a affirmé hier avoir déjoué à l'aube une nouvelle attaque contre un camp militaire du centre du pays, celui de la garde nationale à Sévaré. Elle fait état, bilan provisoire, d'un terroriste neutralisé. Deux jours auparavant, Kati, au cœur de l'appareil militaire malien, avait été l'objet vendredi d'une attaque revendiquée par les djihadistes de la Katiba Massina affiliée à Al-Qaïda. Cette attaque suicide, commise avec deux camions piégés, a tué au moins un soldat malien, fait six blessés dont un civil, tandis que sept assaillants ont été neutralisés et huit autres arrêtés. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé la nuit dernière à Oyo, au Congo-Brazzaville, pour s'entretenir avec le président Denis Sassou Nguesso. Sergueï Lavrov, qui effectue une tournée en Afrique débutée en Égypte, devrait partager avec le président congolais la vision russe de l'invasion de l'Ukraine par Moscou et discuter des projets bilatéraux entre les deux pays. Notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin, est sur place à Oyo.
C'est à 21h en heure locale que Sergueï Lavrov a foulé le tarmac de l'aéroport international d'Olombo dans le centre du Congo-Brazzaville. Il s'est ensuite rendu par route à Oyo où va le rencontrer le président Denis Sassou Nguesso. Le chef de la diplomatie russe sera en effet reçu tout à l'heure à 11h sur les berges de Ngolo Ndoa, ici à Oyo. Rien n'est précisément connu à l'avance de cet entretien. Mais l'ambassadeur de la Russie à Brazzaville a rappelé que son pays tenait à la souveraineté du Congo à choisir librement ses partenaires, clarifiant que la France et la Russie n'avaient pas de conflit d'intérêts au Congo. Le Congo et la Russie sont d'ailleurs sur un important projet de construction d'un oléoduc entre Pointe-Noire et Brazzaville, les deux principales villes du pays. S'agissant de la crise de céréales et de la farine, les autorités congolaises viennent d'augmenter de 120 milliards de francs CFA l'enveloppe des importations. Le Congo, qui garde une position neutre face à ce conflit, exhorte toujours la Russie et l'Ukraine à trouver une issue pacifique et négociée à ce conflit. L'opinion nationale reste cependant très intéressée par la fin des discussions en début de cet après-midi entre Denis Sassou Nguesso et Sergueï Lavrov. Depuis Oyo, dans le nord du Congo-Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Après le Congo-Brazzaville, Sergueï Lavrov doit se rendre en Ouganda et en Éthiopie. Au Caire, il s'est efforcé de rassurer ses partenaires égyptiens quant au risque d'insécurité alimentaire en Afrique notamment, après l'accord sur des couloirs sécurisés pour les exportations de céréales. 3 mois après sa réélection, Emmanuel Macron retourne en Afrique. Ce déplacement de 4 jours permettra au président français de réaffirmer son engagement avec le continent africain. Le président français visite ce lundi et la première fois le Cameroun. Il se rendra par la suite au Bénin et en Guinée-Bissau. Précision de John Linden.
Au Cameroun, les entretiens avec le président Paul Biya devraient porter sur l'insécurité dans le nord du pays et le conflit dans les régions anglophones. Emmanuel Macron avait provoqué l'indignation des Yaoundé en déclarant en 2020, après avoir été interpellé par un activiste, qu'il avait mis la pression sur Paul Biya sur les violences intolérables dans ces régions. Après le Cameroun, le président français se rendra au Bénin, confronté aux défis sécuritaires du Sahel, et enfin en Guinée-Bissau. À chaque étape de la visite, les enjeux de gouvernance et l'état de droit seront traités sans injonction médiatique, mais sous forme d'échanges directs avec ses homologues. La ligne du président, souligne l'Élysée, n'est en aucun cas de s'ériger en donneur de leçons.
Les Tunisiens sont appelés ce lundi à se prononcer par référendum sur une constitution proposée par Kais Saied et qui devrait donner au président de vastes prérogatives sans devoir rendre des comptes, marquant une rupture avec le système parlementaire hybride instauré en 2014. Les plus grands partis d'opposition, notamment le mouvement d'inspiration islamiste Ennahda, bête noire de M. Saïd, ont appelé au boycott du scrutin, invoquant un processus illégal et sans concertation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'invasion russe de l'Ukraine est entrée dimanche dans son 6e mois au lendemain de frappes sur le port d'Odessa qui menace l'application de l'accord sur la reprise des exportations des céréales bloquées par la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé son homologue russe Vladimir Poutine d'avoir craché au visage de l'ONU et de la Turquie et de compromettre l'application de l'accord signé la veille sur la reprise des exportations de ces céréales. La Russie, elle, soutient avoir détruit dans ce port un bâtiment de guerre ainsi que des missiles fournis par les États-Unis, ce que l'AFP dit n'avoir pas été en mesure de confirmer de sources indépendantes. Un violent incendie frappe depuis vendredi une forêt californienne, causant l'évacuation de milliers de personnes, alors qu'une très forte chaleur affecte des dizaines de millions d'Américains dans tout le pays, Mohamed Oumfa.
Favorisé par une extrême sécheresse, les vents et les hausses de température, l'incendie qui s'étend près du parc national de Yosemite et combattu par quelques 2000 pompiers a brûlé au moins 5500 hectares de forêt et menace plus de 2500 maisons, selon une porte-parole du département californien des forêts et de la protection contre le feu. Plus de 6000 personnes vivant pour la plupart dans de petites localités en altitude ont déjà été évacuées samedi, selon un autre porte-parole des pompiers cité par le Los Angeles Times. L'état d'urgence a été décrété par le gouverneur de l'État, Kevin Newsom. Une vague de chaleur a touché les États-Unis le week-end dans le nord-ouest, le centre et le nord-est, avec, selon le Service national météo, des températures allant de 37 à 43 degrés Celsius.
Les corps de 17 migrants haïtiens, 15 femmes, un homme et un enfant, ont été retrouvés sans vie et 25 autres personnes ont été secourues en mer lors d'une opération de sauvetage qui se poursuivait dimanche après le naufrage d'un navire au large des Bahamas, ont annoncé les autorités bahamiennes. Le pape François est arrivé dimanche au Canada pour un pèlerinage pénitentiel lors duquel il devrait renouveler ses excuses pour le rôle de l'Église dans le drame des pensionnats pour autochtones, un geste attendu depuis des années dans le pays. La Minute Éco, Nathalie Barge.
La crise ukrainienne est un signal qui doit inciter l'Afrique à être autonome dans la production de céréales et d'engrais, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Pretoria lors d'une visite de son homologue ivoirien Alassane Ouattara vendredi. Ces déclarations sont intervenues le jour où la Russie et l'Ukraine ont conclu un accord avec les Nations Unies et la Turquie pour débloquer 25 millions de tonnes de céréales accumulées dans des silos. Lors de la rencontre des deux présidents africains à Pretoria, 6 accords ont été signés dans le cadre du plan national de développement ivoirien 2021-2025 et du plan de reconstruction et de relance économique sud-africain. En décembre, 9 accords avaient déjà été signés entre Abidjan et Pretoria. Selon le rapport annuel de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les avoirs officiels de réserve de l'Institut d'émission des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont établis à plus de 14 000 milliards de francs CFA fin 2021 contre quelque 11 700 milliards l'année précédente, soit une hausse de 20% sur un an.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On prend la direction des pistes d'athlétisme de Eugene aux États-Unis. De nouvelles médailles pour l'Afrique.
Oui, le doublé sur le 800 mètres avec l'or pour le Kenyan Emmanuel Korir en 1 minute 43 secondes. Le champion olympique devance l'Algérien Jamel Sedjati qui prend l'argent. En triple saut, Hugues Fabrice Zango fait mieux qu'aux mondiaux de Doha et aux JO de Tokyo où il finit en bronze. Le Burkinabé a cette fois décroché l'argent avec un bond de 17,55 m derrière le champion olympique, le portugais Pedro Pichardo, médaillé d'or avec ses 17,95 m. A noter qu'à quelques heures de la fin de ces mondiaux, l'Éthiopie et le Kenya sont sur le podium au tableau des médailles.
Football à présent avec la CAN féminine. L'Afrique du Sud remporte enfin le trophée.
Tout à fait. Après 5 échecs, les Bayana Bayana s'offrent le trophée pour la première fois de leur histoire. Un succès, 2-1 en finale contre le pays hôte, le Maroc, dans un stade de Rabat à Chicomble. Une grande consécration pour les Sud-Africaines qui ont réalisé 6 victoires en 6 matchs. Une grande performance qui conclut une édition brillamment organisée par le Maroc. Elles disputeront la Coupe du Monde de 2023 aux côtés des Marocaines, des Zambiennes et des Nigérianes.
Chez les hommes, cette fois, ont joué le premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2023.
Une compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Et mauvaise opération pour le Bénin, qui s'est fait corriger 3-0 au Ghana. Par contre, le Sénégal a presque assuré sa qualification au Libéria en s'imposant 3-0. L'Angola a fait pareil, mais 2-0 à l'île Maurice. Autre victoire en déplacement, celle de Madagascar 1-0 aux Seychelles et de la Tanzanie en Somalie. Le Burundi a su 2-1 à domicile devant Djibouti et 1-0 pour la Gambie et la Sierra Leone, respectivement contre la Guinée-Bissau et le Cap Vert. Tout reste encore ouvert entre l'Eswatini et le Botswana.
On se rend dans les sables pour parler des qualifications pour la CAN de Beach Soccer 2022.
Oui, des matchs qui se jouent en un tour unique. Aller-retour pour désigner les 7 qualifiés pour la phase finale prévue du 21 au 30 octobre au Mozambique. Et c'est déjà presque acquis pour le tenant du titre, le Sénégal, qui est allé corriger le Cameroun 9-1. L'Ouganda et Madagascar ont aussi assuré suite à leur victoire 5-2 sur les terrains de Comores et de Seychelles. À noter aussi les victoires du Malawi 3-2 devant la Tanzanie, du Ghana 6-5 face à l'Égypte et de la Côte d'Ivoire 7-6 contre le Maroc. Le Nigeria est déjà qualifié après le forfait de la Libye.
Le reste de l'actualité sportive Élysée, du cyclisme et le retour en janvier 2023 du Tour du Gabon.
Exactement, Idrissa. Après deux années d'interruption en raison de la pandémie du coronavirus, la tropicale Amissa Bongo va retrouver sa place au calendrier international. La 16e édition de l'épreuve phare du continent africain se courra donc du 23 au 29 janvier au Gabon.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, des propos de l'ambassadeur français fâchent et créent la polémique au point où certaines organisations de la société civile et des acteurs politiques réclament le départ de ce diplomate dont le gouvernement burkinabé, qui dit protester vigoureusement, qualifie les propos de discourtois et inamicaux. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré, fait le point.
Les propos de l'ambassadeur de France au Burkina, Luc Alla, datent du 5 juillet devant des représentants du Sénat français. Le diplomate a affirmé, selon la correspondance du ministère des Affaires étrangères qui lui a été adressée, que l'absence de résultats provoque des frustrations de plus en plus fortes dans le pays et que ce conflit endogène est, en réalité, une guerre civile. Une partie de la population se rebelle contre l'État et cherche à le renverser. Quelques jours après ses propos, lors de la commémoration de la fête nationale française à Ouagadougou, le diplomate s'en est encore pris à certains internautes qu'il a qualifiés d'idiots utiles, qui accusent sans preuve son pays engagé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Tout cela a mis le feu aux poudres.
Il devrait rester sûr. Son engagement diplomatique.
Monique Yelikam, candidate à l'élection présidentielle de 2020.
Et non s'attaquer aux réseaux sociaux, aux individus, à la citoyenneté. C'est parce que justement dans les accords, ils se croient sur un terrain conquis et acquis. Et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Nous voulons une révision des accords de partenariat avec la France.
Lassina Sabadogo, coordonnateur du Front de défense pour la patrie, une organisation de la société civile.
Ces propos insultants à la conscience de la jeunesse burkinabé. Il l'a fait, c'est parce que nous, la jeunesse burkinabé, sont révoltés contre lui qu'il s'est excusé. Mais c'est trop tard. Si les autorités burkinabées peuvent accepter ces excuses, tant mieux. Mais chez nous, moi, je ne pardonnerai jamais ces insultes.
La sortie de l'ambassadeur de France est maladroite et est une violation flagrante des principes élémentaires dans les relations diplomatiques, selon Polou Marou Kualaga, spécialiste en relations internationales.
L'ambassadeur de France a beaucoup fait prévaloir ses sentiments, ses émotions, au regard certainement des frustrations, tout à fait peut-être légitimes, suite au sentiment qui est développé au sein d'une certaine opinion quant à l'engagement des autorités françaises et s'interroge sur la sincérité de cet engagement dans la lutte contre le terrorisme. En tant que première personnalité de la France au niveau du Burkina Faso, il aurait pu, à mon sens, se départir de son opinion personnelle sur la question pour faire prévaloir justement le degré ou le niveau de coopération entre les deux États qui privilégie en fait des relations amicales empreintes de courtoisie.
Le diplomate français a été entendu par les affaires étrangères pour lui signifier clairement que ses propos sont inacceptables. L'ambassadeur Luc Alad s'est défendu jeudi à Ouagadougou. Il a affirmé défier quiconque de trouver dans son discours, cette fois-ci, du 14 juillet dernier, la moindre trace d'insulte à l'égard des Burkinabés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Nigeria, c'est la colère des boulangers face à la montée en flèche du prix de la farine et autres denrées utilisées dans la production du pain. Ils sont en grève depuis le 21 juillet. Un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
La boulangerie de Djemama dans le bidonville de Nyanya dans l'état de Nasarawa a fermé ses portes depuis deux semaines, bien avant le déclenchement de la grève des boulangers à l'échelle nationale. La propriétaire Georgina Abba explique les raisons de ses choix difficiles pour fermer son entreprise créée il y a plus de sept années.
Because the cost of production has really been crazy. Le coût de la production est devenu énorme. Nous avions essayé de survivre dans les affaires après la période de Covid-19 en nous battant pour maintenir notre clientèle et notre personnel, pour éviter qu'on perde tout. Tout était devenu trop cher.
Les distributeurs et vendeurs du pain produit dans la boulangerie de Djé Mama sont aussi des victimes de la crise. Les stagiaires dans la boutique des roses, située à quelques mètres de là, sont vides. Elles peinent à maintenir ses clients.
Le pain produit par Djé Mama est de bonne qualité. Les gens aiment le pain. Quand nous avons le pain dans nos boutiques, les gens se pressent pour acheter. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Le pain a disparu et nous avons des problèmes. Le pain produit par d'autres boulangeries. Nous avons de l'argent pour acheter le pain Djé Mama, mais on ne le voit pas.
Une autre cliente de la boulangerie Djé Mama, Josephine Kizito, s'est plaint aussi du manque de pain.
La crise m'affecte. Elle affecte aussi mon business et mes clients. Le pain de Djé Mama est très bon. Sans le pain de Djé Mama, il n'y a pas d'achat. Les gens réclament le pain tout le temps. Ils aiment le prix et depuis que le pain a disparu, nous avons des problèmes. Il n'y a pas d'achat.
Le coût de la farine, du sucre et d'autres matériaux utilisés pour faire du pain connaît une augmentation bien au-delà de la portée de nombreux boulangers. Beaucoup ont fermé leurs fours et les travailleurs sont au chômage technique, d'autres licenciés pour raisons financières. Les négociations entre le syndicat des boulangers et les autorités fédérales n'ont pas encore permis de trouver une solution. Ishak Abdul Rahim, président du syndicat des boulangers pour la capitale fédérale Abuja.
Nous n'avons aucune information encore. J'ai eu l'opportunité de participer aux négociations au ministère de Commerce où nous avions fait cas de nos réclamations. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait et le prix des matériaux et des services augmente tous les jours. Nos clients pensent maintenant que nous sommes responsables de ce qui se passe. Et en réalité, nous ne sommes pas responsables.
Le syndicat réclame aussi que le gouvernement fixe des frais raisonnables pour le renouvellement des licences d'exploitation. Cette grève était censée durer 4 jours comme un avertissement, mais les boulangers menacent de poursuivre indéfiniment leur débrayage si le gouvernement ne donne pas suite à leurs réclamations. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Gabon, l'ancien porte-parole de la présidence est attendu à la barre ce lundi. Son procès intervient après la condamnation à la réclusion criminelle de l'ancien responsable de la Compagnie nationale de pétrole. À Libreville, l'opinion publique est partagée entre le sentiment d'une justice qui fonctionne bien et un jeu de règlement de compte au sein de l'appareil de l'État. Précision de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
L'ex-administrateur directeur général de Gabon Oil Company est condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a versé 76 millions de francs CFA d'amende à l'État gabonais. Patrici Tanaza est poursuivi pour crime de détournement de fonds, complicité des détournements et blanchiment de capitaux. Ses avocats ont dénoncé une parodie de justice. Maître Ange Kevin Zigou, avocat de la défense.
Si la Cour criminelle spéciale voulait avoir des éléments de vérité pour une décision de justice, elle aurait fait venir ces personnes.
La défense entend se pourvoir en cassation, mais l'une des leçons de ce procès reste, selon la société civile, l'incapacité de la Commission nationale d'enrichissement illicite à faire son travail. Geoffroy Fumbula Libeka, membre du COPIL citoyen.
Elle est censée alerter l'État sur le fait que la personne que vous venez de nommer à tel niveau, en début d'exercice, elle n'avait qu'une maison de 2 chambres. L'année d'après, au bout de 3 ans, voilà aujourd'hui cette personne amenant un patrimoine de 5 immeubles. Et elle dit de tenir ce fichier qu'elle le suit régulièrement. Et quand on retrouve ces incohérences, ça veut dire que cette commission elle-même, elle est pourrie. Cette commission elle-même, elle est corrompue.
Observateur de cette saga judiciaire qui dure depuis 2019, Marcelin Dombiban est un citoyen peu confiant à la sincérité de l'opération anticorruption.
Le sentiment que nous avons, c'est qu'en réalité, il s'agit plutôt, parfois, des règlements de compte.
Pour Prosper Mayinda, administrateur civil en retraite, Il ne faut pas désespérer de la justice qui fait bien son travail.
Il n'y a plus de super citoyens, plus de parapluies, parce qu'à l'époque, on avait des mentors. Lorsqu'on détournait des fonds, on était couvert par quelqu'un. Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais quand tu as détourné, écoute, la justice est derrière toi.
Par-dessus tout, c'est la finalité de l'opération contre les bandits à col blanc qui interroge, selon Marcelin Bazet, enseignant.
Il ne suffit pas d'interpeller. Une fois qu'ils sachent que tel a détourné, on le convoque au tribunal, on les met en prison, mais qu'est-ce qu'ils font après? Ils savent où ces gens se mettent leur argent.
Au Gabon, les scandales financiers s'enchaînent et se ressemblent, sans plus de précision sur l'issue des affaires traitées par les tribunaux compétents. Une situation qui amplifie la crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
République centrafricaine, les secours s'organisent après les inondations qui ont fait des centaines de sans-abri à Bangui et dans certaines villes du pays. Le gouvernement et certaines organisations humanitaires commencent à recenser les sinistrés. De l'aide est parvenue hier à une partie des victimes du 4e arrondissement de Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Trois jours après les inondations qui ont causé d'énormes dégâts dans la capitale centrafricaine, deux centaines de sinistrés ont trouvé refuge dans des écoles. Ahmad Ali, habitant du quartier Bayadoumbia, s'est déplacé à l'école Anta Diop dans le 3e arrondissement.
Vraiment, c'est dur, hein. Les enfants ont dormi sur le ciment. On n'a pas de moustiquaires. On avait beaucoup de pertes dans cette maison. Donc, l'eau, c'était venu brusquement comme ça. Même les vêtements, les nourritures, on n'a rien évacué une chose.
Ces femmes et leurs enfants ne savent à quel saint se vouer.
L'eau a envahi tout le quartier. Notre maison s'est écroulée. Nous ne savons quoi faire. Nous avons des enfants avec nous. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide car nous n'avons pas de moyens pour reconstruire nos maisons. Les agents de la Croix-Rouge sont passés nous recenser, mais nous n'avons encore reçu aucune aide. La maison s'est écoulée sur nos effets. Nous vivons avec nos enfants dans les salles de classe de l'école. C'est horrible. Nous voulons de l'aide.
Ces sinistrés se comptent par centaines. L'eau a ravagé leur maison dans la partie nord de Bangui. Joseph Guinot, chef du quartier Sato, explique la situation dans sa zone.
Nous avons constaté un dégâts de pluie vraiment énormes. Et il y a plein de populations, en particulier la population de Sato, la population de PK10, la population de Damala et environ PK13, PK14 et Voutambala, ils sont dans des conditions très difficiles. Beaucoup des maisons des gens sont tombées et les lits des gens sont dans l'eau et les gens ne savent pas maintenant ce qu'ils peuvent faire pour remédier à ce problème.
Les secours s'organisent. Le gouvernement rassure les sinistrés et annonce des réponses d'urgence cette semaine. Félix Mouloua, Premier ministre.
À tout nos concitoyens, toute notre compassion à nos compatriotes qui subissent en ce moment et qui traversent une période extrêmement difficile. C'est l'occasion de rassurer tout le peuple pour que nous soyons unis. C'est l'occasion de démontrer aux yeux du monde que nous sommes solidaires comme un seul homme pour apporter des réponses à ces questions d'urgence. Les services en charge de collecte de données vont poursuivre leur travail pour permettre au gouvernement de se réunir très rapidement en vue d'étudier les voies et moyens pour apporter déjà des réponses à ces préoccupations d'urgence.
Une partie des sinistrés du 4e arrondissement a reçu hier des nattes, des bâches, des couvertures et des ustensiles de cuisine. Dominique Yanduka, député du 4e arrondissement.
Je leur demande seulement de garder la patience. Nous avons constaté que les stocks du gouvernement et ses partenaires étaient un peu insignifiants. À l'issue de cette distribution, je veux me rendre encore au ministère de l'Action sociale pour pouvoir solliciter davantage d'autres kits pour donner à ces paisibles populations qui manquent aujourd'hui de quoi se mettre à l'abri.
Aujourd'hui, plusieurs milliers de sinistrés sont dans le besoin d'aide d'urgence à Bangui et dans certaines villes de la République centrafricaine. Ces inondations provoquées par une pluie torrentielle ont fait plus d'une dizaine de morts, de nombreux blessés et des milliers de maisons écroulées ou inondées. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia au micro, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.